sur le jument de sagesse à Saint-Jotard, le 9 avril 1988.
Question. Ne peut-on pas déjà parler de la liberté d'exercice et de la liberté de choix en éthique? C'est sûr. C'est pour ça que je peux en parler directement, vous voyez. Ce que je vous dis ce matin présuppose l'éthique, présuppose cette distinction. Mais j'essaie de donner une nouvelle lumière sur cette distinction. En éthique, je constate deux sortes de liberté. La liberté d'exercice, la liberté de choix. Je constate qu'il y a une liberté artistique aussi. La liberté de l'artiste n'est pas la même que la liberté de l'homme moral. Ce que Sartre a complètement confondu. C'est pour ça que quand Sartre parle de la liberté, en réalité, c'est la liberté de l'artiste. Il oublie. Il y a des modalités différentes. Et puis, il y a d'autres modalités. Il y a la modalité religieuse. Quand on a parlé de la liberté religieuse au Concile, la plupart ont confondu, n'ont pas compris du tout ce que c'était que la liberté religieuse. Ils prennent la liberté comme absolue et puis l'appliquent. Ils sont cartésiens, ils ne sont pas chrétiens. Alors ils oublient ce que c'est que la liberté religieuse. Il y a une liberté religieuse qui est d'un type particulier. Il y a la liberté religieuse, il y a la liberté artistique, il y a la liberté morale. Il y a la liberté de l'ami, il y a la liberté d'exercice et de choix. Il y a des modalités différentes. Vous voyez, on parle tout le temps de la liberté. Mais la liberté, nous n'avons aucune expérience. Il y a la statue de la liberté quand on arrive sur New York. Vous avez l'expérience d'acte libre. Il ne faut jamais oublier ça. Hein. Blancheur. Acte libre, liberté. Mais la liberté, c'est une abstraction. Liberté, fraternité, égalité. Ce sont des abstractions. C'est pour ça qu'on en fait ce qu'on veut. Hein? Parce que ce sont des abstractions. En réalité, il y a des actes libres. Et il y a des modalités différentes d'actes libres. Dans une... Et c'est vrai que les deux grandes modalités d'actes libres, c'est liberté d'exercice, liberté de choix. Dans un jugement de sagesse, j'essaie, dans la lumière de la liberté de Dieu, de comprendre ce que c'est que cette liberté. Pourquoi y a-t-il cette division? Pourquoi, de fait, la liberté dans ma vie se donne dans des modalités différentes? Ce serait très intéressant d'étudier ça. Ça n'a jamais été étudié, ça. Relever toutes les modalités différentes. Ça, oui, on peut le faire. Mais même la plupart du temps, les gens étudient la liberté. Et qu'est-ce que c'est que la liberté? Vous avez l'expérience d'acte libre. Et la liberté, c'est ce par quoi l'acte libre est libre. Hein? C'est une abstraction. Blancheur. Soyez très attentifs à ça. Dès que vous avez des mots abstraits, ramenez-les aux mots concrets. Parce que vous n'avez l'expérience que du concret. Vous n'avez pas l'expérience de l'abstrait. Dès lors, donc, hein, je dis oui. Ne peut-on parler de liberté d'exercice et de liberté de choix en éthique? Oui. C'est là où je la découvre. Et je la découvre parfaitement dans l'amour d'amitié. À l'égard de l'amour, connaît la liberté. Vous voyez, je commence à avoir un amour qui pousse en moi à l'égard de quelqu'un. Je suis libre d'accepter cet amour ou de le refuser. Liberté d'exercice. Je suis libre d'accepter telle modalité de l'amour et telle autre modalité d'amour, liberté de choix. J'aime quelqu'un, La modalité de l'amour consiste à lui dire « je l'aime, j'ai envie de me précipiter sur lui dès que je le vois ». Ah non, silence, grand silence le soir. Je choisis l'obéissance avant l'amour. Pour que mon amour soit vrai, je choisis l'obéissance. Fait l'expérience de ça tout le temps, quoi. Dès lors, quel est le regard propre du jugement de sagesse sur l'acte libre, sur la liberté ? Moi, je veux bien. Qu'est-ce qu'explicite la notion du libre arbitre par rapport à l'intelligence et la volonté ? C'est ce que je cherche. Je me suis toujours posé la question. Traité de Saint-Augustin, puisque c'est le premier traité sur le libre arbitre, il faut lire ça. Hein. Ça fait partie des classiques, les traités de Saint-Augustin sur le libre arbitre. Puis voir comment Saint-Thomas a digéré Saint-Augustin. Et nous retrouvons le libre arbitre dans la somme théologique de Saint-Thomas. Cherchez dans Aristote, vous ne trouvez jamais le libre arbitre. Le libre arbitre, je crois, apparaît en premier lieu chez les stoïciens, mais pas explicitement. Alors c'est intéressant de voir qu'est-ce que c'est que le libre arbitre pour le philosophe. Est-ce que j'ai le droit de parler du libre arbitre en philosophie ? Ou est-ce que c'est une notion théologique ? Est-ce que ça fait partie de l'éthique chrétienne ? Est-ce que ça fait partie de la philosophie chrétienne ? Le libre-arbitre. C'est entré, hein. Descartes en parle, Kant en parle, tous les philosophes en parlent. Ils oublient complètement que c'est une notion chrétienne. La plupart du temps. Il faudrait regarder dans le stoïcisme. Je n'ai pas assez en acte pour le dire, que c'est, je crois bien, mais j'en suis pas sûr. Si chez les stoïciens, le point de vue du libre arbitre existe, serait très intéressant à voir. Ça ne peut être que chez eux. Vous voyez ? Ça ne peut être que chez eux. Ce n'est pas chez Aristote, ce n'est pas chez Platon. Et donc, c'est peut-être chez les stoïciens. Et des stoïciens, c'est passé un peu chez les néoplatoniciens. Mais Platon n'en parle pas. C'est vraiment Saint-Augustin le premier. L'analogie éventuelle entre être en acte et être en puissance, ah c'est bien ça d'y avoir réfléchi, et liberté d'exercice et liberté de choix, n'est-elle pas sur le fait la liberté de choix ne se comprend que par rapport à la liberté d'exercice ? Mais est-ce nécessaire ? Car le choix se comprend par rapport à la fin choisie. De plus, la distinction acte-puissance est au niveau du ti-esti, mais celle des libertés n'est-elle pas au niveau du pos de l'esprit ? Dès lors, sur quoi repose l'analogie possible ? Bon, c'est très bien, ça pose le problème sur lequel nous allons revenir et on va essayer de comprendre. Donc, d'abord, comprenons bien que nous parlons d'acte libre. Alors, quand on dit liberté, bon, c'est parce que dans le langage, c'est passé tellement dans notre langage qu'on parle de la liberté comme ça. Mais en réalité, au plan philosophique, on devrait toujours parler d'un acte libre. Un acte libre au niveau de l'exercice, je peux poser cet acte, je peux ne pas le poser. Je peux poser tel acte qui implique un choix, je peux très bien choisir autrement. Alors, je reviens un instant sur la question du libre arbitre. Qu'est-ce que c'est que le libre arbitre ? Saint Thomas pose toute une question sur le libre arbitre. On pourrait la voir maintenant, ce serait intéressant. C'est l'enchevêtrement de la volonté et de l'intelligence. C'est la coopération de l'intelligence et de la volonté. Saint Thomas pose la question, est-ce qu'il y a une faculté propre au libre-arbitre? Il dit non. Le libre-arbitre, c'est lorsque l'intelligence et la volonté se trouvent en présence d'actes que la volonté peut refuser. Je suis libre. Vous voyez ? Domina sui. Elle domine. C'est le propre de la volonté. Et je peux suspendre. L'upoké. La suspension. Je peux suspendre. Je peux, au moment des élections, m'abstenir. Suspension. Est-ce légitime ? Est-ce pas légitime ? Cas de conscience. J'ai reçu un coup de téléphone l'autre jour en me demandant « Est-ce que vous ne pourriez pas, pour la télévision, dire comment les religieux se préparent aux élections ?» Comment vous, responsable d'une communauté, vous préparez votre communauté aux élections présidentielles ? Alors j'ai pris l'air le plus grave possible. Je réfléchirai longuement pour savoir si je viens vous répondre ou pas. Téléphonez-moi demain. Vous comprenez que dans le fond de mon cœur, c'était résolu vite. Hein ? Vous voyez ça ? Présenter à la télévision comment on prépare une communauté aux élections présidentielles. Hein ? J'aurais dit mon petit mot sur les différents candidats. Voilà comment je les présente. Puis je leur dis maintenant, faites vos choix. Liberté de choix. Les religieux sont libres de choix. Quant à l'abstention, liberté d'exercice, je peux suspendre. Est-ce qu'on a le droit de suspendre ? C'est une très grave question. Est-ce qu'on a le droit de suspendre ? Quand c'est aussi important pour un pays, une élection présidentielle. On dit oui, mais aucun candidat ne convient. Ça n'a aucune espèce d'importance. On ne vous demande pas de dire que ce candidat vous convient. On vous dit face aux autres, c'est un concours. C'est une espèce de concours. Alors face aux autres, lequel vous trouvez le meilleur ou le moins pire? Et bien vous ne le mettez pas sur votre bulletin de vote. Je vote pour celui-là parce que ça me semble moins mauvais. Je vote pour celui-là parce qu'il me semble le meilleur. Pas besoin de mettre ses qualitatifs. Je vote ou je vote pas. Je crois qu'on doit voter. Parce que si on ne vote pas, on laisse quelqu'un qui peut-être passera ou aura plus de voix. Parce que si je vote pas, c'est nul. Vous voyez ? L'abstention, c'est l'annihilation d'un acte. Je peux m'abstenir. C'est liberté de suspension, l'upoké. C'est important de réfléchir sur ces questions de la liberté. C'est une liberté politique, l'abstention. La liberté politique représente quelque chose de particulier. Il faut avoir aussi une liberté éthique d'abstention. Dans ce cas particulier, vous voyez, quand on vote, par exemple, les religieux qui votent pour l'admission d'un autre religieux, il y a toujours oui, non, abstention. Donc on respecte l'abstention. On respecte cette attitude particulière qui peut se comprendre dans certains cas. Quand j'ai une confiance absolue sur tous ceux qui votent, et que moi, je ne connais pas très bien le cas, je peux m'abstenir. Parce que je laisse les autres qui ont plus de connaissances que moi m'abstenir. Dans une élection législative, présidentielle, vous voyez que c'est très délicat. Parce que vous dites, les autres ont un choix meilleur que moi, connaissent mieux que moi. Est-ce que c'est vrai ? Vous ne pouvez pas dire ça pour tous les citoyens, croyant. Je sais bien qu'il y en a des quantités qui votent sans très bien savoir ce qu'ils font. Alors quoi ? Vous mettez que le dernier petit piou-piou, point de vue citoyen, mais pas du tout. Tandis que dans une communauté où on se connaît, on peut très bien faire ça. Je m'abstiens parce que je laisse les autres voter devant. Parce que j'ai confiance sur les autres. Si vous aviez confiance en tous les citoyens français, Vous auriez le droit de dire je m'abstiens. Parce que je sais qu'ils sont tous plus intelligents que moi dans cet ordre de l'élection politique. Ils ont un sens plus aigu que moi. Moi, je suis très peu informé. Alors je m'abstiens. Je crois qu'on a tous ce sens quand même, hein, élémentaire, quand même qu'on a un tout petit peu, un peu plus de jugeote que des quantités de citoyens, sans du tout s'enorgueillir, hein, mais simplement être dans la vérité, qu'on a un tout petit peu plus de jugeote, quoi, que beaucoup d'autres qui votent. Alors si on a un tout petit peu plus de jugeote que les autres, on n'a pas le droit de s'abstenir, parce que vous laissez passer l'imbécile. C'est ça que ça veut dire, tu vois. C'est ce que disait Cicéron à propos du suffrage universel, que c'était la plus grosse bêtise humaine. Faut pas l'oublier. Parce que la quantité, c'est jamais la qualité. Et le suffrage universel, c'est le primat de la quantité. C'est le primat du nombre. Oui, ça aurait fait une excellente émission, ça. Alors on aurait très bien compris ce que ça veut dire. Bon, alors revenons à nos moutons. Donc, le libre arbitre, c'est la connexion de l'intelligence et de la volonté pour choisir. Choisir un bien qui peut être une fin, choisir un moyen. Le choix implique intelligence et volonté. La connexion des deux, la coopération des deux. La coopération des deux simultanée. Hein. L'intelligence et la volonté sont des facultés spirituelles qui n'ont pas d'organes sensibles. Donc, ils s'entrecroisent, ils se compénètrent. Et c'est parce qu'ils se compénètrent qu'on peut parler d'un libre arbitre. Et je ne fais pas la même possibilité entre ma vision et mon toucher. Je touche et je vois. Je veux toucher et je veux voir. Ma volonté est autre, ne pénètre pas totalement ma vision. Donc il n'y a pas quelque chose de nouveau. Le libre arbitre, c'est parce que intelligence et volonté se compénètrent. Et se compénètre pour une opération particulière qu'on appelle le choix. C'est à partir du choix que je pose le libre arbitre. Et je pose le libre arbitre à partir du choix, non pas comme une nouvelle faculté, mais comme le concours de la volonté et de l'intelligence pour opérer cette opération tout à fait particulière qui est l'élection. L'élection. Je choisis une retraite d'élection. On choisit. Et c'est un acte à la fois de l'intelligence et de la volonté. Est-ce que c'est plus de la volonté que de l'intelligence? Ah, alors là, tout de suite. Liberté d'exercice, la volonté prime. Liberté de choix, l'intelligence prime. Très curieux, ça. Je suis en face d'un acte, un mixte. C'est complexe. Dès qu'on est en face d'un mixte, il y a toujours diverses manières de réaliser ce mixte. Il y a un élément qui pousse plus, ou l'autre. Dans la liberté d'exercice, qu'est-ce qui domine? C'est l'élément volontaire. C'est l'intelligence qui s'applique. Dans la liberté de choix, qu'est-ce qui domine plus? L'intelligence. Il s'agit d'un ordre, préférence. Alors, comprenez bien, la liberté d'exercice est fondamentale. Parce que si j'ai décidé de ne pas poser d'acte, il n'y a plus de choix. Donc, je peux annihiler le choix par la liberté d'exercice. C'est en mon pouvoir. Tandis que la liberté d'exercice, je ne peux pas l'annihiler. Vous voyez Sartre ? Parce que Sartre dit que l'annihilation est au point de départ de toute liberté. C'est vrai pour la liberté de choix. Je peux annihiler le choix. C'est vrai. Mais je ne peux pas annihiler la liberté d'exercice. Donc la liberté d'exercice apparaît comme fondamentale et la liberté de choix présuppose celle-là. C'est très vrai. Mais elle ne dépend pas. La liberté de choix a son caractère propre, irréductible à la liberté d'exercice. C'est donc bien deux moments différents d'acte libre. L'acte libre qui consiste à poser un acte, l'acte libre qui consiste à choisir, ce sont deux actes différents, spécifiquement différents. Et tous les deux sont libres. Et tous les deux montrent un type de liberté particulier. Donc, je vois à ce moment-là que la dualité de liberté d'exercice et la liberté de choix provient que tout acte libre implique volonté et intelligence. Comme deux puissances distinctes. Ça, c'est très important de noter ça. Deuxièmement, la distinction de volonté et d'intelligence, nous l'avions déjà vue l'année dernière, pour ceux qui n'étaient pas là. Je regrette, mais pour ceux qui étaient là, je le rappelle. La distinction de l'intelligence et de la volonté, nous avions vu que c'était le propre d'un esprit créé. Un esprit incréé implique la simplicité absolue dans l'esprit. Dès que l'esprit est limité, c'est-à-dire qu'il est créé, il y a immédiatement deux aspects. Le point de vue de l'intelligence et le point de vue de la volonté. Pourquoi ? Parce que l'intelligence est déterminée par l'être, primo cadit in intellectus ens, hein, c'est le cadit in intellectus, donc c'est la ratio entis qui tombe dans l'intelligence, et la volonté regarde en premier lieu le bien, la ratio boni. Or, ratio entis et ratio boni sont distinctes. Donc, il y a bien deux puissances différentes. Et ceci, c'est propre à l'être créé. Dans l'être créé, il y a en Dieu pas de distinction entre ratio entis et ratio boni. Le mode divin de l'être fait que l'être divin est bon dans tout ce qu'il est. Et l'esprit divin ne faisant qu'un avec son être implique le point de vue de la volonté. En Dieu, intelligence et volonté ne font qu'un. Mais dès que je suis en dehors, dès que je suis en présence d'un être créé, d'un être participé, d'un esprit participé, il y a tout de suite la distinction entre intelligence et volonté. Vous voyez, je justifie la constatation que je fais entre la distinction d'intelligence et volonté. C'est important parce que certains récusent cette distinction, ils ne la veulent pas. Dans une perspective phénoménologique, je ne peux plus arriver à distinguer les deux. C'est ça qui est très curieux. C'est pas étonnant parce que je suis dans l'ordre de l'exercice. Tandis que dès que je suis dans une perspective réaliste, je constate que autre chose est connaître, autre chose est aimer. Ça, je crois qu'on peut tous faire l'expérience de ça. Je te connais. Et depuis que je te connais si bien, oh, l'amour s'est évacué. On dit ça de temps en temps. Ah, je croyais que tu étais bon. Maintenant, je m'aperçois que ta bonté est terriblement limitée. Et donc, je ne peux plus t'aimer. Donc on fait une distinction constante entre intelligence et aimer, dans l'ordre humain. On sait très bien, vous savez, la question que pose saint Thomas, est-ce qu'il vaut mieux connaître ou aimer? Saint Thomas dit que pour toutes les réalités qui sont supérieures à nous, il vaut mieux les aimer que les connaître, et que toutes les réalités inférieures à nous, il vaut mieux les connaître que les aimer. C'est un partage des eaux extrêmement intéressant, ça. Et ça montre bien la dignité propre de l'intelligence et la dignité propre de la volonté. Pour les réalités qui sont supérieures à moi, l'amour va plus loin que la connaissance. Pour les réalités inférieures à moi, la connaissance va plus loin que l'amour. Très curieux, ça. C'est très intéressant pour l'amour des petits chiens, vous voyez, ou des petits chats. Il vaut mieux connaître les chats que de les aimer. Dites ça à quelqu'un qui aime les chats. Vous dites ça parce que vous êtes un philosophe. Et non, je dis ça parce que je suis un homme. Et que les chats ne sont pas des hommes. C'est la même chose pour les chiens et pour les chevaux. Vous savez, c'est la même chose, hein, pour les éléphants aussi. Toute espèce animale, tout ce qui est inférieur à l'homme, tout ce qui n'a pas l'esprit, peu importe la grandeur et le poids, aucune espèce d'importance. Il vaut mieux les connaître que les aimer. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il vaut mieux les disséquer que les aimer. C'est un amour très particulier. Parce que en les disséquant, je les connais, j'en fais l'analyse. Je peux connaître leur rate. Je peux connaître leur réaction. En les aimant, je les aime dans leur existence, tels qu'ils sont. Tandis que la connaissance fait analyser. Ça va très loin, vous savez ce que je dis là. Ça va très très loin dans le partage des eaux. On devrait interroger tous les candidats, savoir s'ils mettent l'intelligence avant l'amour. Ça ne fait pas programme, ça ne fait pas partie des programmes politiques, c'est bien dommage. Mais analysez le programme politique sous ce point de vue-là, vous verrez tout de suite s'il y a une rectification fondamentale ou une non-rectification. Ça va très très loin, ça. Les réalités qui sont inférieures à l'homme, il vaut mieux les connaître que les aimer. Donc, l'économie. Il vaut mieux connaître les lois de l'économie que de les aimer. Puisque l'économie est pour l'homme. Et non pas l'homme pour l'économie. Donc, c'est toute la transcendance de l'homme qu'on voit par là. Et les réalités qui sont supérieures à l'homme, il vaut mieux les aimer. Ça va plus loin que les connaître. Donc, je comprends pourquoi en moi, comme créature, il y a une distinction fondamentale entre intelligence et volonté. Et par le fait même, il y a nécessairement libre arbitre. Pour tout ce qui est objet de choix. Pour tout ce qui est pour moi, par rapport à moi-même, ce que je peux dominer, m'abstenir, il y a une liberté de choix. Et la liberté de choix implique toujours oui, non, abstention. Toujours, les trois. Puisque l'abstention, c'est ne pas exercer. Je ne vote pas. Je vote pour un tel, je vote pour un autre. Élection. Et je m'abstiens. Je ne vote pas. Dans toute liberté humaine, il y a les trois. Les trois aspects. Deux actes différents, mais toujours. Et ceci en fonction même que c'est un esprit créé. Vous voyez la vision de sagesse qu'on a sur la liberté. C'est très beau, ça. La vision de sagesse que vous avez sur le libre arbitre. Et ça, vous le dites tout de suite en fonction de cette vision de sagesse. Vous ne pouvez pas le dire uniquement dans la constatation éthique. Oui, dans la constatation éthique, vous pouvez voir que la liberté d'exercice est fondamentale, que les versets de choix, mais vous ne pouvez pas voir plus. Tandis que dès que vous regardez dans la lumière de sagesse, vous voyez pourquoi il y a les trois, avec cet ordre entre les trois, et que le fait de s'abstenir est quelque chose de radical. C'est pour quelquefois, vous voyez, ça c'est très intéressant, parce que ça montre comment l'abstention, dans certains cas, est la seule manière de sauvegarder une liberté totale. Je m'abstiens. Tandis qu'en vote pour ou contre, vous vous engagez. Et c'est pour ça que vous n'aimez pas de voter pour ou contre. Quand vous êtes en face de personnes que vous n'aimez pas beaucoup, vous aimez beaucoup mieux vous abstenir. Bien plus noble. Pff, là là. Je méprise ce suffrage universel. Je m'abstiens. Je le méprise souverainement. Laissez les canailles voter pour les canailles. Voilà, ça veut dire ça, hein. Si on le dit ouvertement, on s'abstient. Oui, c'est une tentation, quelquefois. Une tentation parce qu'on ne veut pas s'engager. Mais ça peut être un orgueil. Ça peut être un manque d'engagement. En s'abstenant, je ne m'engage pas. Donc je garde toute ma dignité. Tandis que dès que je vote pour ou contre, ah, nécessairement, je m'engage. La liberté de choix me fait entrer dans le combat. La liberté d'abstention, la liberté d'exercice, qui permet l'abstention, me met au-delà. Me permet de me mettre au-delà. C'est la dignité de la liberté d'exercice. C'est ça qu'elle est si grande. Et qu'au fond, on aime bien cela. Ça nous flatte un peu. Et on aime bien ça. Je comprends. On ne se salit pas les mains. Et de l'autre côté, on se salit les mains. C'est forcé. J'ai voté pour vous. Vous avez la main. J'ai voté pour vous, vous savez. Ça dit, j'ai voté pour personne. Il faut sentir ça, hein, et comprendre dans la lumière de la sagesse de Dieu ce que représentent ces trois moments d'acte libre. Donc, je justifie, du moins j'essaie de justifier, d'expliquer ce qu'est le libre arbitre. Qu'est-ce qu'explicite la notion du libre arbitre? J'espère que vous voyez. Par rapport à l'intelligence et la volonté, le lien. La coopération. Une coopération très très forte qui fait que deux facultés unies peuvent poser un seul acte. C'est pas deux actes, un seul acte. Et c'est la grandeur du choix. Et ça, à ce point de vue-là, ça montre combien le choix exprime très profondément la personnalité. Chez les stoïciens, la proairesis, le choix, exprime la personnalité. Et vous comprenez pourquoi? Parce que c'est volonté et intelligence qui s'unissent ensemble pour poser un seul acte. Donc ça nous, ce qui est en nous de plus spirituel, l'intelligence, et la volonté, toute notre capacité d'aimer. Alors, je reviens un instant sur la petite analogie que je mettais ce matin. Maintenant que nous avons vu mieux, on pourra comprendre. Je reprends, je mets l'être en acte, l'être en puissance. Ceci, c'est la complexité au niveau de l'être, du je suis. La complexité au niveau de l'être, du je suis. En moi, il y a quelque chose qui est en acte, mon essai, quelque chose qui est en puissance, mon essence.
pour parler scolastique. Je crois qu'il faut mettre entre parenthèses. Hein. Il faut faire grande attention quand on fait intervenir des distinctions scolastiques. Aujourd'hui, il faut mieux les retraduire autrement. Vous voyez, ça passe mieux l'être en acte et l'être en puissance. Beaucoup mieux. Mais vous avez le droit, il faut le garder, c'est un patrimoine. Mais il faut le repenser. Il faut le repenser. Il ne faut pas être esclave de ce patrimoine. Il faut le repenser de cette manière-là. Bien, dans le « je suis », la complexité implique les deux. Au niveau, donc, de l'esprit, au niveau de la liberté, ou l'acte libre, si vous aimez mieux, je retrouve cette distinction entre acte libre au niveau de l'exercice. Acte libre au niveau du choix. J'ai dit tout à l'heure, vous voyez bien, que dans l'acte libre au niveau de l'exercice, c'est la volonté qui est le plus manifeste. Et au niveau du choix, c'est l'intelligence. Y a-t-il une espèce d'analogie à établir entre les deux ? Est-ce que la volonté est-elle plus acte et l'intelligence plus puissance ? Est-ce que c'est l'analogie entre les deux ? Du côté de l'exercice, la volonté est première, toujours. Et l'intelligence est mue par la volonté. Donc elle est comme en puissance. Du côté du choix, l'intelligence détermine et spécifie la volonté. Donc, vous voyez, il y a quelque chose d'analogue. C'est ça que je veux faire comprendre. Il y a quelque chose d'analogue. Mais, faisons attention, c'est analogue de manière très particulière. Il faudrait mettre comme ça pour qu'on retrouve vraiment l'analogie. Et ça, c'est intéressant à voir. Parce que ça me fait comprendre que la complexité de l'esprit est plus grande que la complexité d'exister. Ce qui est normal. Un esprit créé est bien plus complexe que l'être créé. Alors, je dois prendre l'acte libre au niveau de l'exercice, l'acte libre au niveau du choix. Je vois que la volonté exprime ce qui est en acte et l'intelligence exprime ce qui est en puissance. Et l'acte libre au niveau du choix, c'est l'inverse. L'intelligence exprime ce qui est en acte et la volonté ce qui est en puissance. C'est ce qui est déterminé. Donc, je dois dédoubler cette distinction pour retrouver l'analogie fondamentale acte et puissance. Je vois donc qu'il y a une complexité beaucoup plus grande au niveau de l'esprit. Mais il y a quelque chose d'analogue. Parce que lorsque on me dit, pour récuser l'analogie, que nous sommes là au niveau du tiesti et là au niveau du pos, c'est très vrai, mais je peux saisir le tiesti de l'acte. Et quand je cherche le tiesti de l'acte, c'est ce que je cherche. Or, au niveau du tiesti de l'acte, je cherche qu'est-ce que c'est que cet acte libre. Cet acte libre au niveau de l'exercice, cet acte libre au niveau du choix. C'est très vrai que c'est une réalité complexe. Elle est doublement complexe. Le « je suis » est complexe. Mais le « je veux » est beaucoup plus complexe que le « je suis ». Je veux librement. Vous voyez, quand vous mettez ça, « je suis » et « je veux librement ». Je suis capable de vouloir librement. Eh bien, c'est beaucoup plus complexe. La complexité est double. Vous voyez ? Tandis que la complexité du « je suis » au niveau de l'être, en acte et en puissance. Alors on pourrait se demander pourquoi, hein, on va pousser jusqu'au bout, pourquoi la complexité de l'esprit est beaucoup plus grande que la complexité de l'être. C'est que je crois que l'esprit, c'est l'être le plus parfait que nous pouvons expérimenter. Bien, esse, vivere, intelligere. Et donc, l'être le plus parfait que j'expérimente, c'est quand même l'esprit. Or, plus une réalité est parfaite, plus elle atteint, plus en tant que participée, en tant que dépendante, elle ne peut atteindre sa perfection que dans la complexité. C'est de fait ce que la biologie constate, que l'être physique est moins complexe que l'être vivant, et que l'être vivant supérieur, quand il est spirituel, atteint une complexité extraordinaire, la complexité du cerveau. L'homme est un être plus complexe que la vache. C'est votre supériorité. Oui, c'est pour ça qu'il y a une simplicité qui est une imperfection et il y a une complexité qui est une perfection. Il faut toujours faire attention. Je veux me simplifier. Je me simplifie en supprimant mon intelligence. Vous voyez ? Alors, je deviendrai comme une vache. Simplification assez radicale. Et je veux me simplifier encore plus que la vache, devenir le cristal, la pierre. Oui, il faut faire attention. Il y a des simplifications, c'est ce qu'on dit. Il y a des simplifications qui tendent vers la perfection, il y a des simplicités qui tendent vers la perfection. Il faut donc faire attention. Que la simplicité, oui, c'est très très vrai, et signe de perfection lorsqu'on regarde le point de vue de l'amour, lorsqu'on regarde la finalité. Mais la simplicité comme telle n'est pas toujours signe de perfection. Bon, alors maintenant, un autre problème qui va se toucher, puisque nous avançons progressivement vers un problème qui, au point de vue du jugement de sagesse, est particulièrement important. Comment un être libre peut-il diriger un être libre ? C'est tout le problème du gouvernement de Dieu. Peut-on parler dans un jugement de sagesse, d'un gouvernement de Dieu sur l'homme, l'être libre. Que Dieu gouverne un monde physique, ça va très bien. Parce que le monde physique ne peut pas avoir de revendication. Jamais vu le monde physique revendiqué. Il est trop simple pour revendiquer. Il peut y avoir des tensions, mais pas de revendications. Le monde animal, lui-même non plus. Il y a des petites revendications, mais je ne me pose pas tellement de problèmes par rapport à Dieu créateur, qui comme créateur, lui, crée des êtres vivants, et en tant que créateur des êtres vivants, il est père. Ce père, parce qu'il est père, ne peut pas détruire et annihiler son œuvre, nous l'avons vu, ça. C'est C'est contraire à la sagesse de Dieu d'annihiler son œuvre. C'est très important de bien comprendre ça. Dieu entend qu'un tel, en tant que sage, créant par sagesse, Dieu ne peut pas annihiler son œuvre. Ce serait contraire à sa sagesse. Donc Dieu ayant créé un univers physique, en vue de l'homme, fait que nécessairement cet univers physique, il ne peut pas l'annihiler. Il peut le transformer, le métamorphoser, mais il ne peut pas l'annihiler. Dieu ayant créé des esprits, il ne peut pas les annihiler. Ce serait contraire à sa sagesse. Annihiler quelqu'un qui s'oppose à lui, dans un regard de foi, nous dirions Lucifer, ce serait contraire à sa sagesse, métaphysiquement parlant. Dieu ne peut pas annihiler. Alors, comment comprendre, voyez, le très très gros problème, hein, comment comprendre le Dieu créateur qui crée dans sa sagesse, par pure bonté, qui crée en tant que Père, des êtres vivants. Et en tant que Père, il crée des êtres spirituels, capables de le connaître et de l'aimer, capables de remonter à lui, à la source. Comment ce Dieu créateur et Père gouverne-t-il les hommes ? Je le dis, forcément, puisque Dieu ne peut pas annihiler, Dieu n'est pas indifférent comme Père à la conduite des hommes. Ce serait contraire à sa sagesse. Dieu ne peut pas être indifférent. Et Dieu les crée libres. Si Dieu les crée libres, il doit les garder dans leur liberté. Conserve dans leur liberté. Autrement, il annihilerait quelque chose de plus grave que d'annihiler l'être physique. Si c'est contraire à sa sagesse d'annihiler un être physique, et c'est contraire à sa sagesse, Dieu n'annihilera pas notre monde physique. Je ne dis pas qu'il le gardera éternellement tel qu'il est, hein. Sûrement pas. Il ne va pas l'annihiler. Avec tous les problèmes que ça pose. Il faut aller jusqu'au bout, hein, de ce que nous posons au point de vue de la sagesse de Dieu. C'est plus grave. C'est plus grave d'empêcher un être spirituel d'être libre que d'annihiler la matière. Au point de vue de la sagesse de Dieu. Et donc Dieu ne peut pas supprimer la liberté d'un être libre pour mieux le garder. On aurait la tentation quelquefois de dire ça, n'est-ce pas ? Vous voyez, une bonne mère de famille, une bonne grand-mère, qui sait que sa petite fille qui grandit commence à faire des bêtises. Elle aurait la tentation de dire « Je vais te mettre dans une cage pour t'empêcher de faire des bêtises. Je vais te surveiller tout le temps. Je vais te tenir avec une laisse pour t'empêcher de faire telle bêtise. » On voit très bien la grand-mère disant ça. Une grand-mère un peu autoritaire. Qui sait ce qu'elle fait ? Qui sait ce qu'elle veut, surtout ? Bien faire ça serait tyrannique. C'est plus grand de laisser l'enfant qui commence à faire des bêtises, de le laisser libre. Pas commode à comprendre, hein ? Et la prière de la petite Thérèse de l'enfant Jésus. « Seigneur, ôte-moi la liberté de t'offenser, hein ? C'est naïf. C'est une sainte, c'est merveilleux, c'est naïf. Parce que Dieu ne peut pas enlever la liberté de l'offenser. Ce serait plus contraire à sa sagesse que d'annihiler le monde physique. Oui, parce qu'en supprimant le libre arbitre d'un être créé, d'un être spirituel, d'une personne, c'est l'annihiler comme esprit. Dieu ne peut pas le faire, c'est contraire à sa sagesse. Ça, il faut bien le comprendre, hein. C'est très beau, c'est très intéressant à bien le poser. Dieu ne peut pas supprimer la liberté d'un être spirituel. Il ne peut pas, impossible. Malgré la grand-mère. Parce que la grand-mère supplierait, Seigneur, ôte-lui la liberté de faire les bêtises, je t'en supplie. Flanque-lui une bonne maladie, hein. Pour l'empêcher de faire une bêtise. Et la grand-mère ferait tout de suite ça. Et Dieu laisse, dans sa sagesse. C'est très, très extraordinaire, ça, du reste. Dieu l'a fait pour Lucifer. Dieu l'a fait pour Adam. Ça, c'est le théologien qui parle. Le philosophe, lui, constate qu'on ne peut pas penser un esprit une personne spirituelle sans libre arbitre. Alors, qu'est-ce que c'est que le gouvernement de Dieu ? Est-ce que Dieu, en tant qu'il gouverne, en tant qu'il est père, en tant qu'il est roi, roi et seigneur, consiste à dire « je les suis » par derrière ? C'est comme certains qui, à la place de les gouverner, disent « je les suis ». Pour toutes les bêtises possibles, je continue à les regarder. Je ne peux plus les gouverner. L'abdication de l'autorité. Parce que c'est ça, l'abdication de l'autorité. Ils n'écoutent plus ce que je dis, ils n'écoutent plus. J'ai beau le dire 10 fois, ils n'écoutent pas. Donc, j'ai compris, je les suis. Alors, est-ce que Dieu dit ça ? Dieu ne peut pas abdiquer son autorité de seigneur du monde, de père, de créateur. Et comment Dieu peut-il gouverner, j'allais dire, des êtres ingouvernables ? Des êtres libres. Et c'est ce problème terrible qu'au plan théologique on a traduit de façon diverse. Mais ce que Bossuet dit, on tient les deux extrémités de la chaîne et puis c'est tout. On ne comprend pas. Une extrémité de la chaîne, c'est que Dieu gouverne l'univers de toute éternité. Et l'on enchaîne, il gouverne des êtres libres. Comment ? Je ne sais pas. Est-ce qu'au plan philosophique, je peux essayer de dire quelque chose sur ce problème crucial ? Parce que je ne peux pas dire que Dieu ne gouverne pas le monde. Un stoïcien disait « Zeus gouverne le monde ». Si un stoïcien disait ça, quand j'ai une certaine conception, une certaine vision de sagesse, de la paternité de Dieu, si Dieu crée des hommes libres, il ne peut pas les abandonner à leur propre sort. Et dire, faites tout ce que vous voulez. Vous êtes arrivé à un âge adulte, faites tout ce que vous voulez. Il ne peut pas continuer de gouverner. Et en gouvernant, il dirige. En gouvernant, il prévoit tout ce qui est impliqué dans le fait de gouverner. Et Dieu prévoit de toute éternité, et Dieu gouverne de toute éternité. Alors, si Dieu gouverne de toute éternité, qui prévoit de toute éternité, est-ce que c'est lui qui continue de gouverner? Ou est-ce que les créatures spirituelles, les personnes humaines, passent devant et Dieu est obligé de les suivre? Alors à ce moment-là, il ne gouverne plus. Il a abdiqué. Je suis donc en face de deux positions extrêmes impossibles à soutenir. L'une qui dit que Dieu abdique, c'est impossible. L'autre dire que Dieu supprime les libertés, c'est impossible. Il faut donc que Dieu gouverne en respectant la liberté. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Comment la liberté de Dieu n'étant pas au même niveau que ma liberté, que notre liberté. Il n'y a pas de rivalité possible entre la liberté de Dieu et ma liberté. La rivalité consiste à considérer la liberté de Dieu comme la mienne, c'est-à-dire une projection, position de Descartes. Alors à ce moment-là, il y a rivalité. Si la liberté de Dieu est une liberté d'un acte éternel, Dieu m'a créé librement, Dieu continue de m'aimer librement et de me gouverner librement avec une autorité paternelle. Cette autorité paternelle de Dieu est une autorité libre. Il me gouverne librement, selon sa sagesse. Et ce gouvernement de Dieu est éternel. C'est dans l'éternité que Dieu me gouverne. Et il me gouverne en tant que libre. Et moi, je suis dans le temps. Alors, vous voyez, là, on va toucher un problème extrêmement important, les relations entre l'éternité et le temps. Le temps ne fait pas nombre avec l'éternité. Et tout ce qui est dans le temps ne fait pas nombre avec l'éternité. Puisque le temps est un reflet d'éternité. C'est une manifestation d'éternité. Eh bien, c'est la même chose. Pour ma liberté. Mes actes libres sont dans le temps. Et l'acte libre de Dieu qui me gouverne est dans l'éternité. Je suis, ma liberté est donc enfermée dans la liberté de Dieu. Si je suis libre, si je pose tel ou tel acte libre, c'est parce que Dieu me donne cette liberté. C'est Dieu qui me la donne. Et donc ma liberté ne fait pas nombre avec la liberté de Dieu. Elle est incluse dans la liberté de Dieu. Alors, je commence à voir qu'il ne peut pas y avoir de rivalité. C'est déjà beaucoup. Et que Dieu me gouverne librement en m'orientant vers ce qu'il y a de meilleur en moi. Mais Dieu, en m'orientant vers ce qu'il y a de meilleur en moi, parce que Dieu veut tout le temps ce qu'il y a de meilleur en moi, puisqu'il m'aime, et qu'il m'aime comme Père. Cependant, je suis libre de refuser. Et Dieu nécessairement me laisse libre de refuser. Il y a donc, dans la liberté de Dieu, est impliqué ce fait que Dieu me permet de poser des actes qui sont contraires à sa volonté. Contraires à ce que lui-même voudrait que je fasse. Je dois donc préciser que dans le gouvernement de Dieu, Dieu permet certains actes qui sont contraires
à sa vision profonde sur moi, à sa vision d'amour sur moi. Il me permet de poser ses actes. Et lorsque, au contraire, je vais dans le sens, je coopère librement à cette volonté de Dieu sur moi. Il y a là une distinction extrêmement importante. Vous voyez, ce n'est pas simplement une manière de m'en tirer. Hein. C'est à l'intérieur de l'acte du gouvernement paternel de Dieu sur moi, je vois que ce gouvernement me garde libre. Et donc, s'il me garde libre, il permet que je pose des actes contraires à sa volonté. Et puisqu'il me garde libre, il me permet de poser des dates. Non seulement il me permet, mais il veut que je pose des actes qui sont conformes à sa volonté. Il y a donc, dans le gouvernement de Dieu, ces deux aspects extrêmement importants à bien préciser. Cette volonté permissive de Dieu, Dieu me permet. Et cette volonté tout court de Dieu, auquel je crois.